Moi, je prends le nom du Mishmaï au Kasha oriental. J'ai réfuté totalement ce qui
se passe. Moi, j'ai été de vous combattre au Kasha oriental. Je pense qu'on peut en combinant les deux, de vous président, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange de paroles aux auditeurs. Le mardi 3 mai dernier, le monde a célébré la journée internationale de la liberté de la presse. À cette occasion, l'organisation Journalistes en danger, GED, en sigle, avec l'appui de ses partenaires nationaux et internationaux, a organisé un colloque de 3 jours autour du thème « La liberté de l'information et la responsabilité du journalisme en période de crise ». Polydor Mouboyaï, président de l'OMEC, et éditeur du quotidien Le Phare, estime qu'en cette année électorale, il ne faut pas trop charger le journaliste car son rôle est de transmettre l'information et non la censurer. Quel est votre avis? Rejoignez-nous au 081 890 6315 pour une intervention en direct. Le débat, c'est aussi sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Sylvain Matondou est à la mise en onde de ces magazines. Julie Pézabongonda est au standard. Jérôme Ndiombo est à la réalisation et coordination. Et Pierre Lamegi vous le présente sous la supervision de Martin Seboujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Notons et rappelons qu'à la célébration de cette journée et dans son rapport annuel 2015, GED, des journalistes en danger, relève que 72 atteintes à la liberté de la presse ont été enregistrées en RDC. 2 journalistes tués, 22 journalistes privés de leur liberté pendant des périodes plus ou moins longues, 25 journalistes agressés ou menacés dans l'exercice de leur profession. C'est dans ces rapports publiés le même jour à l'hôtel African Palace à la commune de Lingola à Kinshasa. L'Organisation de défense et de promotion de la liberté de la presse et journalistes en danger a relevé que ces 72 atteintes à la liberté de la presse à l'endroit des professionnels de médias en RDC ça a régressé par rapport à 99 enregistrés l'année précédente. Et pour sa part, le président de l'Observatoire de médias congolais et éditeur du quotidien Le Phare estime que cette année électorale, il ne faudrait pas que les journalistes soient trop chargés car les journalistes jouent son rôle qui est de transmettre les formation et non de la censurer. Comment commentez-vous cette actualité, Maître Sonville? Merci de nous avoir appelé des Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi et bonjour aussi à notre invité.
Quelle est votre réaction par rapport à ces différentes prises de position et comment aider la presse à jouer son rôle pendant cette période électorale?
En tout cas, la presse doit jouer un rôle prépondérant pour éclairer à l'intérieur du public de la population, pour essayer un peu de découvrir les vues et la vision de tous les partis politiques, même de la population. Et la presse qui doit être au-dessus pour amener la calme par rapport à leurs déclarations, par rapport à leur liberté, par rapport à la caisse de l'information. Il faudrait qu'on puisse laisser la large la latitude à la presse d'accéder à l'information afin de mieux informer cette population. Puisque dans la presse, il y a des journalistes spécialisés en matière différente, en matière juridique, en matière sociale, en matière économique et en matière politique. Il faudrait connaître ces journalistes-là dans leur travail, dans toute quiétude, qui ne sont pas intimidés. Là où le bas baisse, c'est à ce moment-là que la presse est intimidée, la presse est muselée, les journalistes se sont arrêtés. Et il y a certains journalistes, au lieu de faire leur travail en toute neutralité, ils s'adonnent aux mensonges, ils s'adonnent à un certain favoritisme. C'est un peu ça qui enfreint la bonne administration de cette presse. Nous savons que la presse n'est pas tout à fait. La presse au Congo, elle n'a pas beaucoup d'atouts sur la population. La presse au Congo n'est pas organisée dans la plupart des chaînes, dans la plupart des médias. Parce que si aujourd'hui vous allez dans beaucoup de maisons, dans beaucoup de résidences, vous verrez que vous rendrez compte que la population a confiance à la presse étrangère. Puisque la population parvient d'entrer en possession de la vérité par rapport aux presses étrangères, chose que notre presse locale devait faire. Maintenant, la presse doit beaucoup travailler pour afin de se réconcilier avec cette population que nous sommes, afin que nous puissions commencer à digérer favorablement la communication, l'information qu'elle nous donne. Mais pour le moment, ce n'est pas chose possible. Puisque aujourd'hui, il y a la presse qui s'aligne du côté de l'opposition, il y a la presse qui s'aligne du côté du pouvoir, mais surtout, je m'insure, je stigmatise la presse qui s'aligne du côté du pouvoir. Puisque aujourd'hui, M. Pierrot, avec notre presse, notre chaîne locale et notre chaîne officielle, la RTLC, il n'y a pas de vérité. Et comment est-ce que cette chaîne qui est soi-disant l'église au milieu du village peut amener la population à la calomnie quelconque? On peut amener la population à croire dans cette chaîne-là. C'est très difficile. C'est-à-dire que la presse est infondée par le pouvoir, surtout notre presse, non notre presse officielle, bien sûr, que la RTLC. Aujourd'hui, si les gens parviennent à suivre la RSI, à suivre l'OCAPI, tout ça, ils expliquent qu'avec OCAPI, avec RSI, avec la Voix de l'Amérique, avec BBC Afrique, là, il y a au moins la neutralité. Or, la neutralité, c'est ça même la déontologie d'un journaliste, l'impartialité, le traitement des informations, c'est ça même la déontologie même d'un journaliste.
Merci beaucoup, Maître Sonville. Vous avez insisté sur le rôle de la presse en cette période et vous avez souhaité que la presse joue le rôle dans la calmie, mais tout cela appelle des responsabilités, vous l'avez dit, la responsabilité de pouvoir public à laisser les médias travailler d'une manière libre, mais aussi la responsabilité des médias eux-mêmes quand il s'agit de la bipolarisation aujourd'hui dans l'espace médiatique entre l'opposition et la majorité. Mais vous souhaitez que la presse travaille dans la neutralité, et c'est de cette façon qu'elle peut attirer la confiance de la population et éviter que la population congolaise ne puisse recourir aux médias périphériques pour suivre l'information et qu'elle puisse se rabattre sur les médias locaux. Merci beaucoup, Maître Sonville, de nous avoir appelé de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Amos, vous êtes à Bukavu. Alors, comment la presse peut arriver à jouer son rôle en cette période électorale, par exemple en RDC? Qu'est-ce qu'on fait du côté du pouvoir public et du côté des médias eux-mêmes, Amos? Qu'est-ce qui peut être fait?
En fait, merci pour la parole, Pierrot. Je salue tout le monde qui suit la radio Capi à ce net moment. En fait, j'étais d'abord à féliciter l'analyse complète pertinente de mon prédécesseur. Mais je pense, pour ce qui est de votre question, il est difficile en fait aujourd'hui de parler de la liberté de la presse en RDC, dans un pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés, les textes qui régissent le pays ne sont pas respectés, mais aussi dans un pays où nous avons des autorités égoïstes qui ne travaillent pas pour la population, mais qui travaillent pour leurs intérêts. Je me dis, en fait, si vous essayez de faire une petite analyse aujourd'hui, Pierrot, vous allez comprendre avec moi que les journalistes ne donnent plus la vraie information à la population. Et tout journaliste qui ose donner la vraie information à la population, soit il paye de sa vie, il est menacé de mort, d'autres sont arrêtés, et voir les médias est carrément fermé. Nous ne voulons pas citer la liste parce qu'elle est longue, de ces journalistes-là qui ont déjà pris de leur vie, que ce soit à Bukavu, que ce soit à travers le pays, mais aussi de tous ces médias-là qui ont été fermés parce qu'ils ont osé donner la vraie information à la population. Et ce qui fâche, c'est que presque tous ces médias appartiennent à l'opposition. Les médias qui appartiennent au pouvoir, comme le professeur l'a dit, vraiment ce sont des médias qui diffusent tout ce qu'ils veulent, les journalistes diffusent ce qu'ils veulent. Mais quel genre d'information ces journalistes donnent à la population? C'est une information biaisée, une information censurée. Vous allez constater, pour ceux qui sont de ces chaînes-là, proche de la majorité et ses journalistes, ils passent une longueur de journée en train de donner des informations de charme. Mais des informations qui parlent de la réalité qu'on est en train de vivre sur le terrain, ces journalistes ne tiennent pas compte de ça. Prenons l'exemple de ce qui se passe à Beni. Vous ne verrez jamais nos radios ou nos journalistes proches du pouvoir donner les images de Beni ou donner les images de routes qui sont en délabrement très avancées. Ils ne sont là que donner des informations qui ressemblent à une campagne en faveur du chef de l'État, ignorant que le chef de l'État est au soir de son mandat. C'est ce qui fâche ce qui passe aujourd'hui. Moi, je pense, par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, surtout comme nous sommes à la veille des élections et nous faisons face à un régime qui ne veut pas lâcher le pouvoir, qui est en train de tout faire pour s'éterniser au pouvoir, et je pense que les journalistes doivent être très prudents et ils doivent travailler avec beaucoup de sagesse pour ne pas s'exposer au danger. Parce que ce que nous constatons aujourd'hui, au lieu que les médias qui sont, par exemple les médias comme la RTNC, c'est un média public qui fonctionne grâce aux taxes de la population congolaise, devait être une église au milieu du village, ce qui n'est pas le cas. Vous allez comprendre que tout, quand on veut maintenant clochardiser un opposant, on veut clochardiser quelqu'un qui n'est pas de cœur avec le pouvoir en place, on utilise la RTNC pour le clochardiser, on utilise Digital Congo, on utilise TV50. Et toute radio ou tout média qui ose maintenant donner la vraie information à la population par rapport à la souffrance nous imposée, par rapport aux violations des droits de l'homme à travers les pays, à travers toute l'étendue de la République, ces journalistes sont menacés, ces médias sont fermés. Ce qui n'est pas vous, c'est pourquoi, comme venait de le dire mon prédécesseur, vous allez raconter aujourd'hui que beaucoup de Congolais ne s'intéressent plus de suivre nos médias au niveau interne. On est maintenant intéressé de suivre la radio Capi, qui essaie de nous donner la vraie information sur le terrain. On est intéressé de suivre la radio comme la RFI, parce que ce sont des médias qui essaient de donner la vraie information. Il arrive des fois que même la RFI a toujours été coupée. Il suffit que la RFI donne la vraie information, qui ne raconte pas l'assentiment de ceux qui nous gouvernent. Directement, vous voyez les ministres de l'information montés au créneau pour dire non, la RFI n'a pas respecté la ligne éditoriale. Voilà ce que nous constatons aujourd'hui au Congo et nous pensons que la période que nous vivons aujourd'hui, c'est une période très sensible et il serait mieux que si réellement nous étions un état de droit, nous étions une république démocratique, comme nos autorités le disent même si nous ne vivons pas, ils devaient voir comment permettre la liberté de l'expression, permettre aux journalistes de nous donner la vraie information pour que la population soit à la page par rapport à ce qui a été de se dérouler à travers le pays.
Merci,
et surtout du fait que nous sommes en pleine organisation des élections.
Merci
que tout le monde est à bras ouverts.
Merci beaucoup, Amos. Vous estimez que la période étant sensible et cruciale aussi pour le processus politique en RDC, il serait mieux que les médias travaillent librement pour donner la vraie information. Vous avez raison, Maître Sonville, qui estime que les contenus de l'information aujourd'hui fait que la population a tendance à se tourner vers les médias périphériques pour aller suivre l'actualité de la RDC plutôt que la suivre au sein de nos médias. Mais vous avez invité les journalistes à la prudence et à la sagesse pendant cette période. Nous avons en ligne Polydor Mouboya Imobanga, qui est le président de l'Observatoire de médias congolais, OMEC, éditeur du journal Les Phares. Monsieur Mouyaï, bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour.
Pourquoi chaque fois, en période de crise, les journalistes sont-ils considérés comme boucs émissaires dans beaucoup de pays en Afrique, mais aussi en RDC en particulier?
Bon, vous m'excusez, c'est peut-être la ligne qui pose problème, je n'ai pas bien suivi. Je n'ai pas bien suivi la question, mais si j'ai cru comprendre, c'est que vous demandez pourquoi il y a toujours des problèmes lorsqu'on se trouve dans des périodes délicates.
Oui, délicates. Mais le problème, c'est que on a tendance à charger les journalistes, ils deviennent presque bouc émissaire dans des périodes de crise comme ça.
Bon, c'est tout à fait normal. On est dans un pays où la démocratie ne s'est pas encore installée. Ou en attendant effectivement qu'on arrive vers un système réellement démocratique, chacun veut que l'information soit donnée selon sa vision. À partir du moment où l'information ne respecte pas cette vision-là, donc elle est naturellement biaisée. Donc c'est ça la question. Alors on tire sur le journaliste, mais le journaliste peut, face à cette attitude-là, adopter une autre attitude qui est celle de l'attitude professionnelle où il doit à tout moment respecter les règles fondatrices du métier qui est le nôtre, c'est-à-dire surtout en période d'élection ou en période préélectorale, être en mesure de diffuser des informations qui ne soient ni diffamatoires, ni dérivatifs, ni malveillants, ni corrompus. C'est cela que nous, au niveau de l'Observatoire des médias congolais, nous ne cessons de prêcher à l'intention de tous les professionnels des médias sur l'ensemble de la République. Donc, si l'information n'est pas dérivatif, n'est pas corrompu, n'est pas malveillant, n'est pas diffamatoire, je pense qu'il est possible d'être en accord avec tout le monde.
Mais il y a un auditeur de Lumbashi qui le disait tout à l'heure, Maître Sonville, en évoquant la polarisation dans notre secteur médiatique aujourd'hui, la presse alignée, les proches du pouvoir ou soit de l'opposition, mais on voit aussi que la plupart des chaînes de radio et télévision, pour les citer, sont propriétés des hommes politiques. Comment alors les journalistes qui travaillent dans ces contextes peuvent-ils aujourd'hui arriver à pouvoir rester à leur responsabilité?
On ne devrait pas s'inquiéter au sujet d'une éventuelle bipolarisation. Si vous regardez l'évolution de la presse à travers le monde, il y a toujours cette sorte de bipolarisation. Quand vous allez en France, vous trouverez des journaux qui sont classés de gauche et puis des journaux qui sont classés de droite. Quand vous allez aux États-Unis, vous avez la même situation. Vous avez Fox News, qui est l'une des principales chaînes américaines, qui est naturellement une chaîne conservatrice. Et puis vous avez d'autres chaînes comme MCNBC, qui sont classés du côté des démocrates, etc., etc. C'est cela qui arrive. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les journalistes, quelle que soit la chaîne où il évolue, où il travaille, où il presse ses services, il doit toujours respecter les règles fondatrices du métier d'informateur.
Mais et quand vous dites que dans cette période, il ne faut pas trop charger les journalistes, car son rôle est de transmettre l'information et non la censure, qu'est-ce que comment vous pouvez expliquer cette pensée?
Quand j'ai dit
que dans cette période, il ne faut pas trop charger les journalistes, car son rôle est d'informer et non de censurer, de transmettre l'information et non de la censurer.
Oui, effectivement, le rôle du journaliste n'est pas de censurer. Parce que vous savez, qu'est-ce qui se passe souvent? Lorsque nous arrivons en période électorale, on demande toujours aux journalistes, c'est chacun qui trouve le moyen de donner des instructions. On dit aux journalistes, ne faites pas ceci, faites plutôt cela. Mais non, c'est pas cela. Le journaliste, il est face à sa conscience, face à l'information. Le public a un besoin, le public veut savoir ce que pensent les candidats, veut savoir ce que pensent les différents partis politiques. Et le journaliste, il est là pour les informer. Donc, face à cette situation-là, lui ne devrait pas, comme on dit, lorsque quelqu'un est parti tenir un discours incendiaire, il ne doit pas être là pour ignorer ce discours-là. Le rôle du journaliste, c'est plutôt de signaler qu'il y a eu ce discours-là incendiaire. C'est très important parce que l'opinion va savoir qui est effectivement qui. La personne qui a tenu le discours incendiaire, est-ce que cette personne mérite d'être élue? Si cette personne-là va à l'Assemblée nationale ou accède à la fonction suprême du pays, quel dégât il ne peut pas faire? Mais lorsqu'on amène le journaliste à se taire, à censurer, à ne pas informer l'opinion sur ce que pense réellement l'individu. Mais cet individu va devenir chef d'État, et lorsqu'il sera chef d'État, il va commettre des dégâts incommensurables. Et c'est là qu'il faut éviter. Nous ne sommes pas là pour censurer, nous sommes là, notre métier est d'informer. Mais d'informer en toute responsabilité. Toute responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner l'information telle que le monsieur l'a donnée, rappeler, rapporter ce que ce monsieur a dit, et à côté de ce rapport-là, eh bien, nous pouvons en même temps faire un commentaire. Le commentaire sera la prise de position.
Avant qu'on écoute d'autres auditeurs, on se rappellera qu'à l'approche des événements en 2011, au niveau du ministère de la Communication des médias, on pensait qu'il y avait quand même moyen d'avoir certaines directives, surtout en ce qui concerne aussi le traitement de l'information en période d'insécurité.
Oui. Accordez-moi quelques 8 minutes. Et je vais revenir sur ces directives-là. Rappelez-moi, je vais vous donner sur ces directives.
Voilà, on va revenir à vous, le temps d'écouter Bénin qui est ici à Kinshasa. Bénin, vous êtes avec nous. Comment les journalistes peuvent-ils arriver dans cette configuration à pouvoir faire ce travail librement et surtout dans cette bipolarisation qui existe, comme le disait notre invité tout à l'heure. Ailleurs, comment ils peuvent arriver à faire ce travail sans beaucoup de difficultés, Bénin?
Ok, permettez-moi d'abord de revenir sur un élément. J'ai toujours entendu les gens dire que la presse, c'est le quatrième pouvoir dans notre pays. Donc, à mon entendement, il y a, à part la présidence, le parlement, le gouvernement, c'est la presse.
Alors, la première question que je me pose, est-ce que et la presse elle-même et les autorités mettent cette presse dans cette place de quatrième pouvoir? La présidence a un budget, par exemple, le parlement aussi, le gouvernement. En fait, à moins qu'on m'informe, je n'ai jamais entendu d'abord d'un budget pour la presse de notre pays. Ça veut dire quoi? Il y a des spécialisations pour les journalistes. Vous allez entendre, on va vous parler d'un spécialiste des questions du Proche-Orient, spécialiste des questions du terrorisme, tout ça ailleurs, là où cette presse a vraiment ce pouvoir. Mais pourquoi ce n'est pas le cas chez nous? Nous allons parler seulement du journaliste à la période électorale ou lorsqu'il suffit de couvrir le déplacement d'un homme politique ou de je sais quoi. Ce n'est pas ça la place qu'il faut mettre aux journalistes. Peut-être la presse elle-même ignore ce qu'elle est, mais je pense qu'un quatrième pouvoir dans un pays comme le nôtre ne doit pas être traité comme nous le traitons dans cette émission, juste à la période électorale. C'est pas normal. C'est pas normal, monsieur le journaliste. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que nous devons comprendre le rôle de la presse, et la presse elle-même doit inspirer confiance, comme le peuple considère le Parlement, la présidence, et puis le gouvernement. C'est cette même considération que la presse doit avoir, à moins qu'on nous dise le contraire. Je donne un exemple, par exemple. On ne doit pas limiter à cette pleurnicher, liberté de presse, on a... Non. Sur le plan démocratie au niveau de la presse, il y a des avancées. Moi, je peux vous citer plus de 10 émissions à caractère démocratique qui se passent ici à Kinshasa, à côté même de la présidence de la République. Hein? Même la RTNC a aussi des émissions, forum de médias, des sons de cloches, tout ça. Je vois les gens s'échanger, c'est les 50 autant. Vous avez aussi l'émission, par exemple, Tribune de presse. Vous avez l'université d'ailleurs populaire qui passe sur une chaîne et qui montre comment les leaders doivent être avec toutes les erreurs de notre pays. C'est ça la place qu'il faut mettre à la presse. Je voudrais seulement dire ceci, que la presse doit être responsable, parce que dans le monde entier, il n'y a pas qu'au Congo que la presse est arrêtée ou qu'on sort. La presse doit creuser sa propre place. Est-ce qu'un journaliste sait que accompagner le chef de l'État, par exemple, en Chine ou qu'on sort, couvrir ces éléments, c'est bien pour amener ce que le chef a fait. Mais ce n'est pas là une faveur, ce n'est pas là le fait de se sentir plus proche, ce n'est même pas une faveur. Comme nous le savons, la présidence soit une presse attachée. Lorsque nous parlons des questions de la presse, pour me résumer, nous allons déplorer que la presse elle-même se méconnaît et que aussi notre pays n'aimait pas la presse. Pourquoi? Voyez l'exemple par exemple de Colette Brockman, la Belge. Mais c'est la Belgique qui met le moyen. Quand je vous ai parlé des spécialisations des journalistes, quand notre presse n'a pas le budget, comment nous saurons voir une journaliste ou un journaliste spécialiste des questions de Béni, par exemple, des questions. À chaque phénomène qui apparaît dans le monde, tout le pays s'est lié, mettre le moyen. La presse devient un instrument de recherche et d'étude là-dessus. Ce n'est pas le cas chez nous. C'est bien qu'on parle de la période électorale, mais je sais que nous avons le devoir de mettre la presse de notre pays à la place du quatrième pouvoir, comme nous le prétendons.
Mais maître, s'il vous plaît, Bénin, vous avez insisté sur la presse qui doit s'affirmer pour inspirer confiance. Quand vous dites que nous devons mettre la presse à la place du quatrième pouvoir, qui doit mettre la presse? C'est le pouvoir public, c'est la population, ou c'est la presse elle-même qui doit revendiquer ce quatrième pouvoir?
D'abord, le gérant du pays, c'est le pouvoir public. Ça revient d'abord au pouvoir public. Mais lorsque j'ai dit que la presse peut-être me connaît, je vois le vice-premier ministre, M. Thomas Louaka. Il animait une émission très importante de l'histoire du pays. L'émission s'appelait « Je connais le Congo ». Mais à mon sens, c'était un journaliste qui devait faire de recherche pour raconter l'histoire comme ça. M. Thomas Louaka n'est pas un journaliste. Voyez là où j'ai dit que peut-être la presse elle-même aussi se méconnaît. Mais ici, on est là, voilà, les chefs d'État, les journalistes. Oui, il faut donner l'information à la population, mais faites que la population vous donne confiance. Uh-huh. Je voudrais dire ceci. Lorsque le gouvernement met la presse à sa place, la presse sera même d'extrême confiance. Parce que nous ne sommes pas là juste pour écouter les informations. Nous avons aussi besoin des études sur les questions de l'Est. On venait de vous dire qu'il y a des chaînes qui ne méritent pas notre confiance parce qu'il faut qu'elle puisse nous dire qu'hier, on a tué à Béni. La radio Capi, Dieu merci, cette radio, même si la Monusco parlait, elle partait plutôt. Ma prière, c'est que cette radio reste une radio éternelle au Congo.
On sait que hier à Beni, on a fait ceci. On sait dans tous les coins du pays, grâce à cette radio, parce que les chaînes sont politisées, soit à l'opposition, soit au pouvoir, et que les informations deviennent sélectives. Or, la population a besoin de tout savoir. Mm-hmm. Voilà ce que je pense.
Merci beaucoup, Bénin. C'est important. Il y a les rôles du pouvoir public dans le regard qu'il doit avoir de la presse. Il y a la Constitution, les lois qui prévoient les subventions pour le média. Vous vous posez la question de savoir s'il y a aujourd'hui les médias sont-ils subventionnés. On n'a pas assez de formations sur l'argent au niveau du budget de l'État pour permettre à ce que les médias puissent fonctionner d'une manière libre et indépendante. Mais il y a aussi la responsabilité des médias, des journalistes. Eux-mêmes, vous avez insisté sur la spécialisation en termes de questions spécifiques aujourd'hui au niveau de médias, mais aussi le rôle que ces médias doivent jouer pour pouvoir inspirer confiance auprès de la population. Merci beaucoup, Bénin. Évariste, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Évariste.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capri.
Et vous, par exemple, vous êtes à Lubumbashi. On revient, comme Bénin le disait, c'est dommage qu'on puisse évoquer le rôle de la presse quand on évoque des questions électorales ou la période des crises. Et vous, quel rôle voudriez-vous voir le média aujourd'hui dans votre milieu jouer pendant cette période électorale?
Comme vous pouvez le constater, d'ailleurs, je dirais juste d'emblée, disons, pour ouvrir une parenthèse, que la plupart des médias ici au Katanga, précisément à Lubumbashi, sont à ce jour fermés, vous le savez, ce n'est pas une information pour vous. Par exemple, la radio Télédoua, Nyota et consorts, c'est fermé, puisque ces chaînes-là ont une quelconque tendance qui est de l'opposition. C'est tout ce que moi je peux dire, la presse, c'est un organe très, très, très capital dans un pays, puisqu'on ne peut pas vivre, disons, sans l'information, sans la communication, je le dis. On doit constater dans le chef des journalistes, je voulais juste rejoindre, disons, le point de vue de M. Liboyal, qui a dit, il y a des tendances à travers le monde, disons, il y a des presses qui sont pas du côté de l'opposition, de la majorité ou des conservateurs et consorts, mais le problème réside en ceci, c'est le journaliste, c'est le niveau du journaliste lui-même. Le journaliste qui doit apprendre à se gérer, à se donner de la valeur. Le journalisme, c'est un métier noble. Un journaliste, c'est un monsieur. Un journaliste, c'est une dame que nous, la population, nous devons du respect. Et ce respect part de l'information que vous nous donnez. Lorsque vous acceptez ce métier, c'est à vous d'accepter aussi tout ce qu'il y a comme, disons, conséquence ou qui entoure ce métier. C'est-à-dire, quoi, lorsque vous n'êtes pas bien rémunéré, c'est à vous de garder votre personnalité et même pas lâcher devant l'argent. C'est ça ce qui tue ce métier aujourd'hui au Congo. Nous avons de très bons journalistes dans ce pays qui savent bien faire leur métier, mais le plus grand problème, c'est face aux moyens financiers. Est-ce que les journalistes au Congo peuvent-ils résister, mettre, disons, en avant-plan leur travail, donner la vraie information, disons, faire le travail tel qu'il se doit, ou bien se céder devant l'argent, déformer l'information, faire garder la bonne information et donner la mauvaise, c'est ça le plus grand problème. Disons, à mon point de vue, c'est ce que je peux dire, c'est quoi? Nous aimerions voir la presse, faire un recours à la déontologie journalistique. Suivez tous les prescrits selon la déontologie, et la presse peut bien faire son travail, quelle que soit la façon dont ils sont rémunérés, les journalistes. Mais tout ce que moi je peux demander aux journalistes, c'est de rester neutre. Disons, donner la bonne information à la place qu'il fait, à l'emploi qu'il fait, un point bas, et vous verrez que non, tout ira bien, et non pas lorsqu'il y a des formations de l'information, ça frustre les uns et les autres, c'est ce qui est peut-être tout ce que vous voyez comme chambardement des fermetures des médias et de mécontentement de gauche à droite. C'est tout ce que moi je peux dire.
Merci beaucoup, Variste. Vous insistez sur la neutralité, la non le respect de la déontologie, n'est pas déformer plutôt l'information en tenant compte de des avantages. Et quand on doit rester dans cette logique au-delà des conditions de travail dans lesquelles les journalistes évoluent aujourd'hui, vous estimez que tout peut aller sans problème. C'est à la presse elle-même de reconnaître son rôle et sa valeur. Merci beaucoup, Variste Blanchard. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Et bonjour à tous les auditeurs de la radio Kassi.
On vous écoute, Blanchard.
Oui, d'abord, merci pour les choix de la thématique du jour. Vous savez bien, Pierrot, le métier du journalisme, c'est un métier noble. Pourquoi je l'ai dit? Puisque c'est un métier qui concourt au développement d'une nation. Tenez, les pays comme les États-Unis d'Amérique, si aujourd'hui ils sont forts tels qu'ils le sont, c'est puisqu'ils mettent beaucoup de moyens pour les services de l'information et de la communication. Mm-hmm. Je me souviens d'ailleurs, à une certaine année, quand j'ai préparé mon travail de fin d'études, j'ai essayé de passer des recherches dans ce domaine-là, puisque je suis aussi journaliste de formation.
Mm-hmm.
J'ai compris qu'aux années 68, imaginez Pierrot, en 68, les États-Unis ont mis plus de 68 millions dans les secteurs de l'information et de la communication. Alors, aujourd'hui, nous sommes en 2016. On ne sait pas si c'est bité et triplé ou je ne sais moi, et à quel chiffre nous en sommes aujourd'hui. C'est pour dire que les pays doivent mettre les moyens qu'il faut pour les services de l'information et de la communication, et ce qui va concourir le développement d'une nation.
Mm-hmm.
Mais moi, j'ai compris ici dans notre pays, si les journalistes ne sont pas objectifs, ou s'ils ne travaillent pas avec toute indépendance, c'est face à ces quatre pouvoirs. Il y a d'abord les pouvoirs politiques qui les empêchent de travailler comme il se doit. Deuxièmement, il y a les pouvoirs politiques, les pouvoirs financiers et judiciaires. Ce sont des obstacles qui empêchent les journalistes de bien travailler.
Mmh.
Alors, si l'État était organisé, il pouvait quand même laisser à ce que les journalistes travaillent libre, mais ce n'est pas le cas pour aujourd'hui. C'est pour cette raison-là que vous verrez, il y a une seule presse qui est attachée au pouvoir en place, l'autre à l'opposition, et les choses ne vont pas aller, et la population ne doit pas se retrouver. Puisque la population, son compte, c'est quoi? Il a besoin d'une information fiable.
Mm-hmm.
C'est pour cette raison-là que nous nous apprécions Radio Okapi. Hein? Vous êtes en train de nous remonter encore dans les règles et l'éthique même du métier du journalisme. Moi, par exemple, si j'ai essayé de ne pas pratiquer le journalisme, c'est puisqu'il y a à voir dans ces métiers. Hein? Nous aimerions faire autre chose que de pratiquer ce qu'on a appris, puisqu'on ne pourra pas travailler avec toute indépendance. Mais ce que nous demanderons aux collègues journalistes, hein, s'ils travaillent, s'ils peuvent travailler avec toute leur conscience, bien que le travail va de pair avec les moyens.
Mm-hmm.
C'est ce qui fait même créer le phénomène coupage aujourd'hui. On ne sait pas vivre, alors il faudrait courir auprès des sources d'information, influencer l'information dans le sens où ils le veulent, et c'est ce qui fait que les choses n'aillent pas bien. Mais nous donnons du courage à ceux qui travaillent normalement, qui prennent conscience, mais ce n'est pas facile de travailler dans des pays comme les nôtres.
Merci beaucoup, Blanchard. Vous estimez que le pouvoir public a la responsabilité de pouvoir financer les secteurs de l'information pour permettre à ce que les médias soient assez développés, mais face aux autres pouvoirs, le pouvoir politique, le pouvoir financier, le pouvoir judiciaire, qui ne peuvent pas aujourd'hui faciliter aux journalistes de faire leur travail, il faille que les journalistes eux-mêmes aujourd'hui puissent résister à toute forme de pression pour éviter que l'information soit influencée par les autres pouvoirs. Maître Adrien, vous gardez la ligne, nous allons revenir à vous. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Nous revenons à vous, Polydor Moboya et Mubanga. Vous êtes avec nous comme invité dans cette émission. Vous avez suivi encore les auditeurs, mais on s'est séparé dans votre intervention au niveau des directives. On évoquait ces directives quand il s'agit du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, au niveau aussi du ministère. Pensez-vous qu'il y a des directives qui ne peuvent pas faciliter aujourd'hui aux journalistes de pouvoir travailler en toute indépendance, quelle que soit la période, qu'elle soit liée à la sécurité, à la période des élections, par exemple?
Non, je crois que il faut être réaliste. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication est une institution citoyenne. Cette institution rend compte de sa mission, non pas la profession, mais au pouvoir public. Donc, d'une certaine manière, il y a un lien qui, qui l'attache à ce pouvoir-là. Donc, on n'est pas là pour critiquer le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, mais il est tout à fait logique, on devrait le comprendre, quand on tient compte du contexte politique congolais. Parce que ici, encore une fois, je reviens sur ce que j'avais dit dès le départ, c'est qu'on n'est pas dans une démocratie installée, dans un état qui se recherche encore sur ce terrain-là démocratique. Il est tout à fait normal que les instructions que l'on donne ne respectent tout, pas nécessairement tout ce qui est attendu sur le terrain démocratique. C'est pour cela que on voit qu'il y a deux fois cette tendance à la caporalisation que la corporation dénonce parfois. Mais c'est normal, il faut tenir compte du contexte. Hein, c'est un peu comme tout à l'heure, là, il y avait un intervenant qui parlait du dopage, qui parlait de la corruption dans les médias. Mais encore une fois, il ne faut pas sortir les journalistes congolais de la société congolaise. Le journaliste congolais, il appartient à une société. Il n'est pas sorti de la crise de Jupiter. Et dans cette société, tout le monde le sait, la corruption occupe une place importante. Les plus grands corrompus, ce ne sont pas les journalistes. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Les plus grands corrompus, ce sont ceux qui gèrent. Si aujourd'hui, les finances ne sont pas toujours celles que l'on voudrait qu'elles soient. Si aujourd'hui le trésor public n'est pas suffisamment renfloué, c'est parce qu'il y a ce phénomène de la corruption. Et ce phénomène frappe à des niveaux assez élevés. Donc lorsque vous retrouvez dans cette situation-là, vous n'allez pas dire que non, parce que le journaliste, lui, il se laisse corrompre. Mais enfin, mais tous les autres là, qu'est-ce qu'ils font? Il faut plutôt reconnaître aux journalistes l'honnêteté de façon régulière de se faire en quelque sorte acquérir, c'est-à-dire d'examiner la manière dont leur profession fonctionne, de dénoncer eux-mêmes cette corruption-là. Parce que les journalistes n'attendent pas que les tiers viennent regarder ce qui se passe dans leur secteur et leur disent « Non, écoutez, il y a la corruption. » Mais eux-mêmes se réunissent et dénoncent cette corruption-là. Et lorsqu'il y a corruption, il y a un corrupteur. Il n'y a pas que les corrompus qui seraient des journalistes. Il y a les corrupteurs. Le corrupteur, qui est-il? C'est un cadre supérieur. Pourquoi on s'attaque aux maillons faibles? Et on laisse les cadres supérieurs tranquilles. La loi ne protège pas les corrupteurs. Donc là, il y a un problème de fond qu'il faut regarder. Ce problème-là, on ne peut le résoudre que si on résout la question au plan global, au niveau de l'ensemble de la société congolaise. Tant qu'on ne l'aura pas résolu à ce niveau-là, le phénomène de la corruption va demeurer. Donc c'est ça le vrai problème. Pour revenir aux directives, bon, moi, je ne focalise pas assez sur les directives du CESAC. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je me focalise sur les directives que la profession elle-même donne. Ces directives-là qui reposent sur les règles d'éthique et de déontologie professionnelle. Vous savez, nous avons diffusé, il y a de cela 12 ans, nous avons diffusé, il y a 11 ans, c'est en 2005, le guide pratique du journaliste en période électorale.
Oui.
Nous avons réédité ce guide en 2011. Nous l'avons diffusé sur l'ensemble du territoire. On a fait cet effort-là d'aller dans toutes les provinces de la République. On a diffusé le guide pratique du journaliste en période électorale. Et c'est ce guide renseigne les journalistes sur ce qu'il y a lieu de faire, quel doit être son comportement, aussi bien vis-à-vis de lui-même que vis-à-vis des hommes politiques, vis-à-vis des partis politiques, vis-à-vis du pouvoir. Tout cela est contenu dans ce guide. Et il y a des directives précises qui sont émises par l'article 19. Ces directives-là détaillent point par point ce qui doit être fait pour que le journaliste se sorte de tout défier que l'on pourrait lui tendre sans y laisser sa peau. Donc nous demandons aux journalistes, parce que le vrai problème que nous constatons, c'est que nous faisons un effort au niveau de l'autorégulation, au niveau de divers organes qui encadrent la profession. On fait ces efforts-là de diffuser l'information, de diffuser les directives, de diffuser les règles.
cet effort-là. Nous distribuons des documents pédagogiques. Mais il faut qu'en face, le confrère se donne aussi la peine de lire ces documents pédagogiques. Parce que si les gens, je vois même en cette période ici, je pense que vous en êtes rendu compte, il y a un foisonnement d'ateliers concernant le comportement du journaliste en période électorale.
Oui.
Mais tout cela a été dit. Et non seulement a été dit, les documents pédagogiques ont été distribués aux journalistes. Si, évidemment, il y a de nouveaux qui sont arrivés dans la profession, c'est normal, parce que nous avons de nombreuses écoles de formation de journalistes. Il y a des jeunes gens qui sortent chaque année et qui arrivent dans la profession, qui méritent d'être encadrés. Mais ces éléments-là, on ne doit pas faire comme si on recommençait à zéro, comme s'il n'y avait rien sur le terrain, alors que les éléments sont là, les outils pédagogiques sont là. Nous demandons aux journalistes de lire. De lire. S'ils ont oublié, ils vont se rendre compte que tout ce qu'on est en train de leur raconter à gauche, à droite, tout cela a été dit, et même mieux dit. Et ils constateront que le moyen de mieux exercer leur profession, ces moyens-là pratiques, sont mis à leur
disposition. Mais pour les dons voyagés, il y a Bernard Kinshasa qui est revenu sur la question des subventions. On sait que cela est prévu par des textes juridiques. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas aussi cette difficulté? On voit que les médias n'ont pas assez des moyens pour l'encadrement des journalistes. Mais il a posé la question de savoir aujourd'hui qu'est devenir la subvention du pouvoir public aujourd'hui pour permettre aux médias de pouvoir se développer.
Bon, là, c'est bien cette subvention-là. Moi, je suis pas en mesure de vous répondre. La question devrait être posée à ceux qui gèrent le secteur. Enfin, je suis pas en mesure de vous répondre. Mais ce que je dois dire, c'est que la question de subvention, c'est une question qui date de 35 ans. Nous avons été au congrès extraordinaire. Puisqu'on aime bien parler de refondation, c'était le premier congrès de refondation de la presse congolaise. C'était en 1980, de ce congrès-là. Nous sommes sortis avec les textes fondateurs de la profession. Et ce sont ces textes-là, les différentes lois que vous avez jusqu'à ce jour. D'ailleurs, il y en a qui ont été révisées et tout ça, mais ce sont ces textes-là, ce travail a été fait en 80 par les professionnels des médias eux-mêmes. Et lorsque nous sommes sortis de là, il était bien prévu le régime dit de facilité, c'est-à-dire des aides directes, des aides indirectes. Et ce sont donc c'est un problème qui ne devrait plus se poser, parce qu'ici on n'est pas en face comme c'est le cas avec cette affaire d'accès des journalistes aux sources, d'accès à l'information, où on court derrière une loi. Mais là, la loi existe, il s'agit simplement de l'exécuter. Pourquoi ne l'exécute-t-on pas? Et pourtant, il n'y a aucune difficulté à exécuter une loi. Il n'y a aucune difficulté à exécuter une loi. Il s'agit simplement de prendre des arrêtés interministériels dans différents secteurs. Et l'affaire serait réglée. Pourquoi on ne prend pas ces arrêtés interministériels? Donc là, il y a un véritable problème qui se pose. Tout ce qui est recherché par ce régime de facilité, c'est permettre à la presse de produire l'information à faible coût. Vous savez, lorsque vous regardez le journal congolais, il est vendu à un coût très élevé pour le commun de Congolais, compte tenu de son pouvoir d'achat. Mais pour que ce journal-là soit vendu à un prix faible, il faut que les éditeurs de journaux soient en mesure de produire l'information à un faible coût, que les intrants, etc., soient achetés à des prix qui leur permettent de fixer le taux du journal à un prix assez bas. Mais lorsqu'on ne signe pas des arrêtés interministériels, lorsqu'on n'accorde pas cette aide directe et cette aide indirecte, comment voulez-vous que la presse puisse produire à faible coût et effectivement aller vers la réalisation de l'article 24 de la Constitution qui enjoint au gouvernement de mettre l'information, de permettre à la population
d'accéder à l'information.
C'est l'article 24 de la Constitution.
Voilà.
Donc, quelque part, on viole la Constitution lorsqu'on refuse d'exécuter la loi portant régime de facilité.
Merci. On va revenir à vous le temps d'écouter Maître Adrien qui est à Kananga, Marcia, Alicia Kinshasa. Maître Adrien, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à Monsieur Polydor.
On vous écoute.
Oui, merci Pierrot de l'opportunité que vous m'offrez une fois de plus. Je pense que
je commence d'abord par saluer le rapport de GED. Hein. C'est un rapport qui essaie un peu d'épingler certaines choses, même si ce rapport-là est en train de cacher certaines responsabilités que GED devait aussi jouer vis-à-vis des hommes de presse. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec ceux-là qui accusent à tort ou à raison les pouvoirs publics. Mais moi, j'essaie un peu de mener mes petites enquêtes partout où je passe, voir comment est-ce que les journalistes travaillent. Je relevais deux choses qui sont vraiment à la base des problèmes vis-à-vis des journalistes. Premièrement, c'est l'instrumentalisation des journalistes. Parce que il y a certains journalistes qui se laissent instrumentaliser pour lorsqu'ils passent aux médias, c'est devenu une occasion d'un règlement de compte vis-à-vis d'une tierce personne ou d'une seule autorité. Donc c'est très fréquent. Et puis, deuxième élément que je peux relever, donc le manque de formation de ces journalistes. C'est bien beau aujourd'hui, quelqu'un qui a fait ses études en journalisme, mais qui ignore que l'enseignement congolais est plus théorique que pratique. C'est ce qui fait que lorsque ces gens-là viennent, commencent à presser, il faut qu'il y ait certains suivis pour leur formation. Je ne sais pas combien de fois nos journalistes sont formés, combien de fois ils sont encadrés, ils sont abandonnés à leur triste sort. S'il y a une formation, c'est une formation qui vient comme ça à la volée, et peut-être après 5 ou 6 ans pour avoir une autre formation. C'est comme ça que je vais d'abord profiter de cette occasion pour poser une question précise à M. Polydor. Je ne sais pas. Il doit encadrer les journalistes. Est-ce c'est son média ou bien c'est sa corporation? Parce que si M. Polydor répond à cette question-là, je pense qu'à ce moment-là, nous aurons tous une idée claire pour savoir pourquoi il y a des dérapages. Donc, c'est la question qui pourra peut-être me répondre. Mais maintenant, pour terminer, Thierry, je pense que je vous donne un exemple. Il y a nos amis, les ressortissants, donc la mutuelle de Demba, qui préparaient leur échange de vœux chez eux là-bas. Mais tout d'un coup, il y a un journaliste qui s'élève pour commencer à stigmatiser nos amis là, non, voilà, ils sont corrompus, ainsi de suite. Lorsque nous savons très bien qu'il y a un principe en journalisme qui dit que donc les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Maintenant, lorsque on a demandé à notre ami là pour qu'il puisse apporter la preuve qui lui dénonçait que nous, ils sont corrompus, voilà. Ce sont ces amis maintenant qui commencent à crier à la tracasserie. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut vraiment utiliser le pouvoir public lorsque quelqu'un se réveille un matin, rapproché par un monsieur qui ne veut pas de ce que les autres sont en train de faire pour qu'il fasse, donc qu'il passe ces informations, et lorsqu'il sera appelé pour qu'il puisse appuyer maintenant ces allégations avec une preuve, on crie à l'instrumentalisation.
Voilà, c'est que vous avez posé cette question directe à notre invité de savoir le problème de l'encadrement en termes de formation. Est-ce que c'est la corporation ou le média qui emploie les journalistes? On pourra poser, demander à notre invité tout à l'heure, mais vous êtes revenu sur cette question de l'instrumentalisation des journalistes, le problème du travail, de faire un travail pour mire. Notre invité l'a dit à l'introduction, que le journaliste ne peut pas prêter ses services pour nuire à quelqu'un, ni diffamer, ni aller dans cette presse des dérives. C'est ça aussi la responsabilité. Et vous estimez aussi qu'il y a un problème des formations aujourd'hui qui se pose, la formation continue, quand les gens sont déjà, quand même ils sont en train déjà de travailler. Merci beaucoup, Maître Adrien Martel. Vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
Merci.
Bonjour à tous nos auditeurs de la radio Kati.
Mm-hmm.
Oui, je voulais juste un peu signer sur ce terme qui parle de la liberté de la presse en RDC. J'ai eu à constater que depuis longtemps, la presse congolaise vit sous une pression dictatoriale, dans le sens que s'il y a une bonne information et les journalistes ne parviennent pas à diffuser et à diffuser ces informations-là sur la voie des ondes comme ça a été déroulé sur le champ. Alors, j'ai voulais juste un peu demander à l'invité. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui à ce que les journalistes ne parviennent pas à donner une bonne information claire à la population congolaise? Aussi longtemps qu'il y a des actions qui se déroulent, qui se passent même dans notre présence, mais quand nous entendons à la radio ce qui se passe, vraiment, c'est tout autre. C'est le cas de la chaîne nationale. Si il y a une action qui s'est déroulée, et vous voyez que les informations qui sont données vraiment sont vraiment contraires à l'action. Et il y en a d'autres journalistes qui parviennent parfois à donner une bonne information et qui sont poursuivis par l'État congolais, par les gouvernements en place. Il y a des journalistes qui ont perdu leur vie et que nous connaissons bien dans ces pays. Suite à des bonnes informations qu'ils ont données à la population, on les poursuit. On les poursuit pour les assassiner, pour les tuer, pour les éliminer. Et,
merci beaucoup, merci à
l'invité. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il veut bon,
vous avez voulu savoir pourquoi aujourd'hui les faits sont des fois déformés. Vous rendez compte que les événements se sont déroulés d'une manière, mais quand vous écoutez la radio ou regardez la télé, vous rendez compte que ce qu'on vous présente, ce n'est pas la réalité de ce qui s'est passé sur le terrain, et c'est ce que vous avez demandé à notre invité. On va terminer avec vous, Joseph. Vous êtes à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Bonjour, Joseph.
Bonjour, cher ami Pierrot et la Meji. Bonjour à notre invité.
On vous écoute, Joseph.
En fait, d'emblée, tu sais, Pierrot, juste quand tu as énoncé le sujet qui a fait la thématique du jour, ça sème de confusion. On commence à prétendre que le journalisme, c'est de la politique. Alors, des fois, nous qui sommes à politique, on a peur d'intervenir dans des émissions comme tu vois un peu là où nous sommes arrivés. Hein? Donc, voilà pourquoi nous prions. Nous prions, comme j'interviens après semaine dernière aux journalistes. Nous avons besoin de l'information. Un peuple sans information, c'est un peuple, disons, un peuple sans âme, un peuple mort. Tu sais, dans la journée, j'ai trois émissions. Je suis au Capu Service, parole aux auditeurs. Je suis également l'émission de WAN de la RFI. Et quand je vais suivre les informations sportives, j'attends les informations à la radio Capi. Après les informations, j'attends l'émission sportive que la radio Capi présente. Tu t'imagines un peu, alors qu'il y a une panel de chaînes de télévision, de chaînes de radio, mais pourquoi on ne fait pas confiance à toutes ces chaînes de télévision, à toutes ces chaînes de radio? Tout simplement parce que le journaliste ne fait pas bien son travail. Alors ça fait triste. On a même peur d'embrasser la carrière de journalisme à l'université ou à l'humanité. Parce que ici chez nous, particulièrement en RDC, le journalisme a été considéré à la politique, alors que ça n'a rien à faire avec la politique. Le peuple a besoin d'être informé. Les informations nous aident à savoir ce qui se passe là où j'ai laissé mes parents, ce qui se passe à Kinshasa et partout ailleurs. Ainsi, comme maître Adrien de Kananga l'a dit, le manque de professionnalisme, le manque de formation, voilà ce qui fait en sorte que les journalistes soient traqués par ceux qui détiennent le pouvoir. Il y a des journalistes qui sont là à la longueur de la journée pour louer leurs patrons. Et ça, ce n'est pas ce que la population a besoin.
Merci beaucoup, Joseph. Mais quand vous avez dit dans notre formulation, nous avons évoqué le rôle du journaliste, et comment il doit faire son travail en période de crise, en période électorale, comment le journaliste doit-il travailler. Mais vous rendez compte que plus les journalistes aujourd'hui sont confondus à la politique, hein, et c'est dommage que cela ne permet pas aux journalistes de pouvoir donner l'information comme il faut. Merci, Joseph. On revient à vous, Paul-Hugues Mbouyaï. Vous avez suivi les trois derniers auditeurs. Il y a Maître Adrien qui a posé la question sur l'encadrement du journaliste. La corporation, son média, mais aussi Martial qui s'inquiétait sur la déformation, on peut dire, des faits, selon ce qu'il suit actuellement dans le média, et cette inquiétude de Joseph par rapport à l'activisme politique, hein, c'est qu'il lui considère que cela a dévié complètement le journalisme, et c'est aussi pour conclure cet échange.
Oui, la question sur l'encadrement est une très bonne question. L'encadrement, c'est d'abord au niveau du média.
Mmh.
Le au niveau du média, cet encadrement, il est assuré par la rédaction en chef, par le secrétaire de rédaction, par le conseil de rédaction. C'est pour cette raison-là que chaque jour, il y a des réunions qu'on appelle des conseils de rédaction qui ont pour objectif de faire le monitoring de tout ce qui a pu être récolté comme information et voir de quelle manière tout cela est orienté par ceux qui ont été sur le terrain, comment les enrichir, etc. Donc, ils sont encadrés journellement au niveau de leurs propres médias. D'ailleurs, en matière d'autorégulation, la première autorégulation, elle est interne. Elle s'effectue effectivement au cours de ce conseil de rédaction. Parce que c'est là qu'on corrige les gens, qu'on redresse ce qu'ils ont pu amener comme tard, qu'on les aide à mieux s'exprimer, à diffuser une information qui soit otage de règles qui font de le métier qui est le nôtre. Le deuxième niveau de l'encadrement, là, c'est la corporation. C'est là où interviennent des structures comme l'OMEC, comme l'UNPC, comme le CESAP et bien d'autres organisations professionnelles. Donc, qu'on se comprenne bien.
Mm-hmm.
L'encadrement fondamental, il est effectué au niveau de l'organe lui-même. Donc, si dans un organe, il n'y a pas un bon rédacteur en chef, il n'y a pas un bon secrétaire de rédaction, et que les conseils de rédaction ne se tiennent pas, les journalistes sont livrés à eux-mêmes. Ces journalistes-là ne pourront pas produire un travail de qualité. Donc, c'est cela qu'il faut dénoncer. Et c'est pour cette raison-là qu'au niveau de la loi, on exige obligatoirement, donc il est demandé qu'il y ait une rédaction attachée à l'organe. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a des organes qui fonctionnent sans rédaction. Donc, à partir de ce moment-là, ça pose problème. Alors, la deuxième question, c'était sur la qualité des journalistes. On a dit qu'il n'y a pas de bon. Et puis, tout d'un coup, il y a aussi la même question apporte une sorte de contradiction parce qu'on reconnaît qu'il y a des
journalistes
qui ont perdu leur vie, pour avoir les informations qu'il y a.
Mmh.
Donc, là, on constate
Merci.
À ce niveau-là.
Merci.
Oui.
Dommage pour Polydor Mouboyaï que le temps nous a bousculé. Placez juste le dernier mot en 10 secondes parce qu'on a terminé par là. En 10 secondes, s'il vous plaît.
Bon, en 10 secondes, ce que je dirais, c'est que bon, quand on entre dans le journalisme,
merci.
Ce qu'on doit savoir, c'est qu'on apprend.
Merci.
On apprend à chaque seconde.
Merci beaucoup, Polydor Mouboyaï, d'avoir accepté notre invitation. Merci à toute l'équipe de production des Paroles aux Auditeurs. On se retrouve demain pour un autre numéro. Au revoir.